Le Tabernacle. Un portrait détaillé de Jésus-Christ. Volume 1. Paul C. Jong. Veuillez vous référer à ce qui suit. Ce texte a cité la Bible Louis II 1910 ainsi que la Bible version King James Nouvelle. Le salut des pécheurs révélé dans le tabernacle. Exode chapitre 27 versets 9 à 21. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors, sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent, et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté, et sa hauteur de 5 coudées, les toiles seront de fin lin retors, et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux, et tous les pieux du parvis, seront d'airain. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants, et que devront observer les enfants d'Israël. La longueur de la clôture du parvis du tabernacle est de 100 coudées. Dans la Bible, une coudée est définie comme la distance entre le coude et le bout des doigts, ce qui correspond à environ 45 cm. Par conséquent, le fait que la longueur de la clôture du parvis du tabernacle soit de 100 coudées signifie qu'elle mesure environ 45 mètres, et que la largeur étant de 50 coudées signifie qu'elle mesure 22,5 mètres. Ainsi, nous pouvons voir que le tabernacle, où Dieu demeurait parmi le peuple d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament, était de cette taille. Il y a une clôture installée autour du parvis extérieur du tabernacle. Avez-vous déjà vu une image ou une maquette du tabernacle? Lorsque vous regardez le tabernacle dans son ensemble, il est divisé en le parvis du tabernacle et le lieu saint, qui est la maison de Dieu. À l'intérieur du tabernacle, qui est la maison de Dieu, il y a une petite maison appelée le lieu saint. Le lieu saint est couvert d'une tenture habilement brodée de chérubins en lin finement retors, en fil bleu, pourpre et cramoisi, d'une couverture faite de poils de chèvre, d'une couverture faite de peau de bélier teinte en rouge et d'une couverture faite de peau de loutre marine. Du côté et du parvis du tabernacle, il y a une porte tissée de fil bleu, pourpre et cramoisi et de lin finement retors. Lorsque vous entrez par cette porte, vous voyez l'autel des holocaustes et la cuve. Après avoir dépassé la cuve, se trouve le tabernacle. À l'intérieur du tabernacle, il est divisé en le lieu saint et le lieu très saint, où se trouve l'arche de l'Alliance de Dieu. Et la clôture du parvis du tabernacle comporte au total 60 colonnes et est suspendue avec des tentures en lin blanc. D'autre part, les murs du tabernacle sont faits de 48 planches. Avant tout, nous devons comprendre la structure générale du tabernacle afin de savoir ce que Dieu veut nous dire à travers le plan du tabernacle. Dieu demeurait à l'intérieur du tabernacle, qui était fait de 48 planches, et pendant la nuit, une colonne de feu, et pendant le jour, une colonne de nuée restée au-dessus du tabernacle, montrant aux Israélites la présence de Dieu, et le lieu très saint était rempli de la gloire de Dieu. Dieu était dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y avait la table des pains de proposition, le chandelier, et l'autel des parfums, et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance et le propitiatoire. Seuls les prêtres établis par Dieu pouvaient entrer et servir Dieu avec tous les objets du lieu saint, et seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par an. Cela nous montre que même à notre époque, seuls ceux qui ont une foi comme l'or, croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit, peuvent servir Dieu et vivre avec lui. Que signifient les pains de proposition sur la table dans le lieu saint? Ils signifient la parole de Dieu. Que signifie l'autel des parfums? Il signifie la prière. Dans le lieu très saint, il y a l'arche du témoignage, et le couvercle d'expiation fait d'or pur est placé au-dessus de l'arche. Les chérubins déploient leurs ailes vers le haut, couvrant le couvercle d'expiation de leurs ailes, et leurs visages sont tournés l'un vers l'autre, regardant vers le couvercle d'expiation. Cet endroit est appelé le couvercle d'expiation, l'endroit où la grâce est donnée. À l'intérieur de l'arche du témoignage se trouvent les deux tables de pierre gravées des 10 commandements, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et un vase contenant la manne. Et l'arche est recouverte d'un couvercle, le propitiatoire, fait d'or, et au-dessus de celui-ci, les anges regardent vers le propitiatoire. Où vivent ceux qui ont été purifiés de leurs péchés? Ceux dont les péchés ont été effacés vivent dans le lieu saint. Le lieu saint est fait de 48 planches, et toutes étaient recouvertes d'or. Tout le monde, imaginez cela. Si vous voyez non pas une ou deux, mais 48 planches couvertes d'or, à quel point la lumière dorée serait-elle éblouissante? De cette manière, le lieu saint où demeure la présence de Dieu est un endroit où tous les objets sont faits d'or et brillent de manière éclatante. L'autel des holocaustes et la cuve dans le parvis extérieur du tabernacle sont tous faits de bronze, et la clôture du parvis est faite de rideaux en lin et de colonnes dont les chapiteaux sont recouverts d'argent. En revanche, tous les objets à l'intérieur du lieu saint sont faits d'or. Le chandelier est en or, et la table des pains de proposition est en or. Parce que tous les objets à l'intérieur du lieu saint sont en or, le lieu saint brillait toujours d'une lumière dorée éclatante. Cette brillante lumière dorée à l'intérieur du lieu saint représente la vie de foi que mènent les saints, ceux dont les péchés ont été purifiés au sein de l'Église. Les 500 péchés qui vivent par la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont comme de l'or pur dans le lieu saint. La vie de ces saints vivant dans le lieu saint signifie être avec l'Église, recevoir la parole de Dieu par l'Église, prier Dieu, le louer, et venir chaque jour devant le trône de Dieu pour recevoir la grâce. C'est la vie de foi dans le lieu saint. Veuillez vous rappeler que seuls ceux qui ont été sauvés par l'eau et l'esprit et sont justes sans péché peuvent vivre cette vie de foi dans le lieu saint. Dieu a clairement séparé l'intérieur et l'extérieur du sanctuaire. Tout comme la plupart des maisons ont une clôture, le parvis du tabernacle était aussi entouré d'une clôture faite de 60 colonnes et fermée par des rideaux en fin lin. Du côté et du parvis du tabernacle, il y avait une porte faite de fil bleu, pourpre et cramoisi, ainsi que de lin finement retors, de sorte que chacun pouvait facilement reconnaître l'entrée, et sa largeur était d'environ 9 mètres. En étudiant le tabernacle, nous devons comprendre clairement quel genre de foi brillante Dieu désire, quel genre de foi ont ceux qui sont sauvés, et comment le Seigneur nous a sauvés à travers les matériaux utilisés dans le tabernacle. Pour apprendre la vie brillante et dorée de foi contenue dans le sanctuaire, nous devons examiner la cuve, l'autel des holocaustes, la clôture dans le parvis extérieur du tabernacle, et tous les matériaux qui y sont utilisés, et en comprendre les raisons. À travers cela, nous pouvons savoir quel genre de foi est nécessaire pour entrer dans le sanctuaire brillant et doré. Qu'y a-t-il dans le parvis extérieur du tabernacle? Il y a la cuve en bronze et l'autel des holocaustes. Et il y a 60 colonnes en bois qui l'entourent, et une clôture faite de fin lin étendue sur ces colonnes. Dans le parvis extérieur du tabernacle, il y a une clôture, et il y a 60 colonnes en bois. Le bois utilisé pour les colonnes de la clôture est du bois d'acacia. Le bois d'acacia utilisé pour les colonnes du tabernacle est ferme dans sa matière, possède un fort pouvoir de reproduction et est très léger. Les colonnes du tabernacle faites de ce bois mesurent environ 2,25 mètres de haut. Par conséquent, les personnes de taille moyenne ne peuvent pas voir l'intérieur de la clôture du parvis depuis l'extérieur. Si quelqu'un apporte délibérément quelque chose pour se tenir dessus et regarde par-dessus, il pourrait peut-être voir à l'intérieur, mais normalement, ce n'est pas possible. Cela nous montre qu'il n'est pas possible d'entrer dans le royaume de Dieu par des efforts humains. Au bas des piliers en bois de la clôture du parvis extérieur du tabernacle se trouvent des bases en bronze, et au sommet des piliers se trouvent des chapiteaux en argent. Comme les piliers de la clôture ne peuvent pas tenir debout d'eux-mêmes, il y a des bandes d'argent qui servent à maintenir les piliers ensemble. Pour fixer solidement les piliers, les bandes d'argent relient les crochets en argent fixés au sommet des piliers et les piquets en bronze enfoncés dans le sol, fixant ainsi fermement les piliers. Quels étaient les matériaux de la porte du parvis du tabernacle? Les matériaux de la porte du parvis du tabernacle étaient le fil bleu, le fil pourpre, le fil cramoisi et le lin finement retors. La porte du parvis du tabernacle mesurait environ 2,25 mètres de haut et environ 9 mètres de large, et c'était un rideau tissé de fil bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin, suspendu à quatre colonnes. Ainsi, toute personne souhaitant entrer dans le parvis du tabernacle pouvait facilement trouver la porte. Les matériaux du fil bleu, pourpre et cramoisi utilisés pour la porte du tabernacle représentent que Dieu nous sauverait de tous les péchés par les quatre ministères de son Fils Jésus. Les 60 colonnes en bois avec la clôture en fin lin dans le parvis extérieur du tabernacle montrent aussi précisément comment Dieu te sauverait, toi et moi, du péché par son Fils Jésus. Dieu nous montre clairement le secret du salut à travers la porte du parvis extérieur du tabernacle. Regardons les matériaux utilisés dans la porte du parvis du tabernacle. Elle était tissée de fil bleu, fil pourpre, fil cramoisi et lin finement retors. Tout le monde, ces quatre fils sont extrêmement importants pour que nous croyions en Jésus et recevions le salut. Si ces matériaux n'étaient pas importants, la Bible ne les aurait pas mentionnés avec autant de détails. Tous les matériaux utilisés dans la porte du parvis du tabernacle étaient des matériaux essentiels pour que Dieu te sauve, toi et moi. Ces quatre fils étaient nécessaires pour que Dieu sauve les gens pécheurs, et c'est pourquoi la porte du parvis du tabernacle était nécessairement brodée de fil bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin retors. Dieu en a décidé ainsi. C'est pourquoi Dieu montra à Moïse le modèle du tabernacle sur le mont Sinaï et lui commanda de faire la porte du parvis du tabernacle de cette manière. Que signifie le fil bleu, le fil cramoisi, le fil pourpre et le fin lin retors? À la porte menant au sanctuaire, un rideau brodé de fil bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin retors était utilisé, et le voile entre le sanctuaire et le lieu très saint était également fait de ces quatre fils. De plus, les vêtements des prêtres qui servaient dans le tabernacle étaient aussi faits de fil bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin retors. Alors, que signifie le fil bleu, le fil cramoisi, le fil pourpre et le fin lin retors? Que nous disent clairement ces éléments, absolument nécessaires pour que notre Seigneur nous sauve? C'est une partie que nous devons examiner attentivement. Premièrement, le fil bleu parle du baptême de Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas le baptême ne savent pas que le fil bleu fait référence au baptême de Jésus-Christ. Ainsi, ceux qui ne sont pas nés de nouveau disent généralement à propos de la signification du fil bleu, cela signifie que Jésus-Christ est Dieu, roi, et qu'il est venu dans la chair. Cependant, la Bible dit que le fil bleu est le baptême que Jésus a reçu pour porter les péchés du monde lorsqu'il est venu sur cette terre. Certains disent aussi, le fil bleu signifie simplement la parole. Cependant, la parole de la Bible montre clairement que le fil bleu fait référence au baptême d'eau que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. En examinant la parole concernant le tabernacle, j'en suis venu à réaliser, ah, Dieu veut nous révéler l'importance de la foi dans le baptême de Jésus. La tunique extérieure que porte le grand prêtre lorsqu'il offre des sacrifices est aussi tissée avec du fil bleu. Et sur le turban que le grand prêtre porte sur la tête, il y a une plaque d'or attachée, et le cordon qui attache cette plaque d'or est fait d'un cordon bleu. Sur cette plaque d'or est gravée l'inscription « Sainteté à l'Éternel ». Nous pouvons clairement voir que le cordon bleu qui attache la plaque d'or sur le turban du souverain sacrificateur représente le baptême de Jésus, qui offre la sainteté à l'Éternel. De cette manière, Dieu nous parle du salut de la vérité à travers le cordon bleu qui attache la plaque d'or sur le turban. En d'autres termes, le lien de connexion qui nous donne la sainteté est bleu, et cela représente le baptême de Jésus. Habituellement, lorsque nous pensons au bleu, nous l'associons au ciel bleu et pensons à Dieu, mais le bleu ne signifie pas simplement Dieu. Parmi le fil bleu, pourpre, cramoisi, et le lin finement retors, le fil bleu signifie le baptême de Jésus-Christ. En d'autres termes, le fil bleu signifie que Jésus-Christ a reçu le baptême et a pris sur lui tous les péchés de chaque pécheur dans le monde, Matthieu chapitre 3 verset 15. Si Jésus n'avait pas reçu le baptême pour prendre sur lui les péchés de tous les hommes, aucun de nous, croyants, n'aurait pu atteindre la sainteté à l'Éternel. Sans le baptême que Jésus a reçu, nous ne pourrions jamais recevoir la sainteté devant Dieu. Tout le monde, comprenez-vous la signification spirituelle de pourquoi Dieu a ordonné que la porte du parvis du tabernacle soit tissée et brodée avec du fil bleu? La porte du parvis, qui conduit au tabernacle où Dieu demeure, fait référence à Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le fait que la porte du parvis, qui désigne Jésus, soit tissée de fil bleu, pourpre, cramoisi, et de lin finement retors montre clairement que Dieu voulait nous révéler la vérité qui mène au salut. Ainsi, les fils bleus, pourpre et cramoisi parlent du baptême de Jésus, de sa mort sur la croix, et du fait qu'il, qui est Dieu, est venu dans la chair humaine. Le ministère de Jésus représenté dans les fils bleus, pourpre et cramoisi nous donne la foi par laquelle nous pouvons nous présenter devant le Seigneur dans la sainteté. Le pourpre parle du Saint-Esprit et nous dit que Jésus est le roi des rois. Le fil cramoisi parle du sang que Jésus-Christ a versé sur la croix. Le fil bleu, comme nous l'avons mentionné, parle du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Jésus, qui est Dieu, est venu sur cette terre revêtu de chair humaine, et en recevant le baptême, a pris sur son corps tous les péchés des pécheurs, et pour tous les péchés de l'humanité, Jésus a pris le jugement et la malédiction à notre place et a versé son sang. Voilà le secret spirituel contenu dans les fils bleus, pourpre et cramoisi. Jusqu'à présent, vous pensiez peut-être que le fil bleu représentait simplement Dieu ou la parole de Dieu. Mais maintenant, vous devez comprendre clairement. Le fil bleu parle du baptême de Jésus-Christ. Le baptême de Jésus, par lequel tous nos péchés ont été transférés sur lui, est une vérité indispensable et cruciale dans l'œuvre de Jésus qui nous donne l'effacement des péchés. C'est pourquoi, même dès le tabernacle de l'Ancien Testament, Dieu a clairement parlé du fil bleu, c'est-à-dire, du baptême de Jésus. Le baptême que Jésus a reçu était pour prendre sur lui nos péchés. Les piliers de la clôture du tabernacle étaient faits de bois d'acacia. Au bas de ces piliers se trouvaient des socles en bronze. Et au sommet de ces piliers, il y avait des chapiteaux en argent faits pour les couvrir. Cela nous dit que les pécheurs doivent être jugés à cause de leurs péchés. Seuls ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs qui, à cause de leurs péchés, ne peuvent aller qu'en enfer, peuvent recevoir le salut. Ceux qui ne reconnaissent pas qu'ils sont des pécheurs destinés à l'enfer ne peuvent pas recevoir le salut. De tels gens ne peuvent recevoir qu'un châtiment éternel, qui est le jugement, devant Dieu à cause de leurs péchés. Comme il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort, Romains chapitre 6 verset 23, les pécheurs doivent sûrement recevoir le jugement effrayant de Dieu à cause de leurs péchés. Par conséquent, un pécheur doit une fois, par la foi, être jugé devant Dieu concernant le péché, puis, en recevant la grâce de Dieu, revenir à la vie. C'est ce que signifie naître de nouveau par la foi. La foi du fil bleu que Jésus-Christ a pris sur lui tous nos péchés par son baptême, la foi du fil cramoisi que Jésus a reçu le jugement sur la croix et a sauvé tous nous, pécheurs, du péché, cette foi est ce qui nous fait mourir au péché et naître de nouveau. Vous devez savoir que pour ceux qui ne croient pas à ce fait et ne passent pas par le jugement par la foi, seul le jugement éternel les attend. Le baptême de Jésus était précisément pour prendre sur lui tous les péchés du monde afin de nous sauver, nous pécheurs, du péché. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste était pour prendre sur lui tous nos péchés. Jésus est Dieu, mais afin de nous sauver, il a revêtu un corps humain, a reçu le baptême de Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité, pour prendre sur lui tous les péchés des pécheurs, et a offert son corps sur la croix, versant son sang et recevant le jugement à la place des pécheurs. La porte de la cour du tabernacle montre en détail l'œuvre que Jésus a accomplie pour devenir notre Sauveur. À travers le fil bleu, pourpre, cramoisi et le fin lin retors de la porte de la cour du tabernacle, Dieu nous dit clairement que Jésus est devenu le Sauveur des pécheurs. Le fin lin retors signifie que Dieu nous a donné les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui sont si détaillées et parfaitement harmonisées. Le fin lin retors est tissé de manière très délicate, fil après fil à travers le fin lin retors, Dieu nous parle très spécifiquement de la parole par laquelle il nous a sauvés. Quand vous regardez un tapis, vous voyez que divers fils sont tissés ensemble, fil par fil. De la même manière, Dieu a ordonné que la porte de la cour du tabernacle soit faite en posant le fin lin retors comme base, puis en brodant dessus des fils bleus, pourpre et cramoisi. Cela nous montre que la parole détaillée de Dieu renferme la vérité selon laquelle Jésus, venu par l'eau, le baptême, le sang, la croix et le Saint-Esprit, Jésus étant Dieu, est la porte de notre salut. Maintenant, nous pouvons connaître la juste foi concernant Jésus-Christ, telle que révélée dans la délicate parole de Dieu, recevoir l'amour de Dieu et pleinement recevoir le salut par la foi. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés de façon grossière ou négligente. Vous pouvez le savoir en regardant le tabernacle. Jésus a sauvé les pécheurs de façon détaillée et précise. Ce fait peut aussi être connu en regardant les piliers de la clôture. Tout le monde, pourquoi le nombre de piliers est-il précisément 60? C'est parce que le chiffre 6 fait référence à l'homme. Dans Apocalypse 13, l'expression 666 apparaît, qui est le nombre de la bête, et il est dit que celui qui a la sagesse comprend le secret de ce nombre. D'autre part, le chiffre 3 est le nombre faisant référence à Dieu. Le chiffre 6 est le nombre de l'homme. Le chiffre 666 signifie que les humains agissent comme s'ils étaient Dieu. Quel est le désir des humains? N'est-ce pas de devenir un être parfait, semblable à Dieu? Pour vraiment devenir un être semblable à Dieu, il faut naître de nouveau par la foi en Jésus et, par cela, devenir un enfant de Dieu. Cependant, au lieu d'avoir la foi en ce que Jésus a fait, les gens agissent dans un mal orgueilleux en essayant de devenir fils de Dieu par leurs propres efforts. C'est pour cette raison que les gens réinterprètent toute la parole de Dieu selon leurs propres désirs et finissent par croire de manière erronée selon la pensée humaine. Plutôt que de suivre la foi, ils suivent leurs propres désirs et s'opposent à Dieu. À cause du désir de devenir parfait par eux-mêmes, de perfectionner leur propre chair, ils finissent par s'éloigner complètement de la parole complète de Dieu. La parole du salut révélée dans tous les matériaux du tabernacle. Afin que Jésus-Christ sauve les pécheurs et les fasse entrer dans le sanctuaire, tous les ustensiles et matériaux du tabernacle étaient nécessaires. L'autel des holocaustes était nécessaire, la cuve était nécessaire, les piliers et les socles de bronze et les couvre-piliers en argent étaient nécessaires, et les crochets et les tringles en argent étaient également nécessaires. Tous ceux-ci sont les ustensiles à l'extérieur du sanctuaire, et les matériaux de tous ces ustensiles étaient absolument nécessaires pour faire de chaque pécheur une personne juste. Tous ceux-ci sont nécessaires pour qu'un pécheur puisse entrer et vivre dans le royaume de Dieu, mais parmi eux, le plus important était le fil bleu, le baptême de Jésus. C'est pourquoi des fils bleus, pourpre et cramoisi étaient utilisés à la porte de la cour du tabernacle. Cela parle des trois ministères de Jésus qui sont absolument nécessaires pour que nous croyions en Dieu. Premièrement, Jésus est venu sur cette terre et a pris sur lui tous nos péchés par son baptême. Deuxièmement, que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit. Et troisièmement, que Jésus est mort sur la croix pour recevoir le jugement pour tous les péchés qui lui ont été transmis au Jourdain par Jean. Toutes ces choses sont des éléments essentiels de la foi pour que les pécheurs soient sauvés du péché et deviennent justes. Quand nous regardons la Bible, nous en venons à savoir, le Seigneur est si détaillé. Nous savons clairement que c'est Dieu lui-même qui nous a sauvés si délicatement, comme un fil de lin retors, un brin à la fois. De plus, Dieu a ordonné de fabriquer la porte de la cour du tabernacle en brodant des fils bleus, pourpre et cramoisi sur une tenture de fin lin de 9 mètres de long. Par conséquent, Peu importe à quelle distance quelqu'un se trouvait, il pouvait reconnaître avec précision la porte du tabernacle en la regardant. La tenture de fin lin blanc sur la clôture de la cour du tabernacle représente la sainteté de Dieu. Par conséquent, le pécheur en vient à réaliser qu'il n'ose pas s'approcher du tabernacle. Ainsi, le pécheur doit savoir qu'il ne peut entrer dans le parvis du tabernacle que s'il reçoit le salut en croyant à l'œuvre de Jésus révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi brodé sur la porte du parvis du tabernacle. De cette façon, Dieu a fait connaître aux pécheurs que Jésus-Christ, par l'eau, le sang et le Saint-Esprit, a effacé tous leurs péchés et les a sauvés. Non seulement cela, mais même les matériaux de tous les instruments qui composent le tabernacle, y compris la porte de la cour du tabernacle, révèle également la parole détaillée de Dieu nécessaire pour faire du pécheur une personne juste. Dieu a ordonné de faire la porte de la cour du tabernacle assez grande pour que quiconque puisse la trouver, et parce que la porte de la cour du tabernacle a été faite comme la parole l'a commandée, finement brodée de fils bleu, pourpre et cramoisi sur une tenture de fin lin, il a fait en sorte que quiconque voyait la porte de la cour du tabernacle puisse clairement connaître la parole de vérité qui fait des pécheurs des personnes justes. La porte de la cour du tabernacle nous dit que nous, qui sommes comme du bois d'acacia, avons été parfaitement sauvés du péché par le fil bleu, le baptême, le fil cramoisi, le sang de la croix, et le fil pourpre, Jésus étant Dieu. Dieu a établi que seuls ceux qui croient clairement à cela peuvent entrer dans le lieu saint, qui est la maison de Dieu. Jésus-Christ nous parle. Dieu nous dit que pour vivre une vie de foi dorée et splendide à l'intérieur du lieu saint, nous devons venir devant le Seigneur avec la foi que Jésus a reçu le baptême et a effacé tous les péchés. C'est pourquoi Dieu lui-même a montré à Moïse le plan du tabernacle, a fait construire le tabernacle par l'intermédiaire de Moïse, et a permis au peuple d'Israël de recevoir la rémission des péchés par le système de ce tabernacle. Nous devons connaître et croire à la foi par laquelle nous devons passer dans la cour du tabernacle avant de pouvoir entrer dans le lieu saint. Dieu continue de parler dans la cour du tabernacle de la foi que Jésus nous a sauvés par l'eau, le baptême, le sang et le Saint-Esprit. La foi en la porte de la cour tissée de fil bleu, pourpre et cramoisi, l'imposition des mains du grand prêtre sur l'agneau sacrificiel et l'effusion du sang de l'agneau sacrificiel, la foi en le grand prêtre se lavant les mains et les pieds à la cuve, la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la foi semblable à de l'or pur qui nous permet d'entrer dans le lieu saint et de vivre glorieusement. Dieu, à travers le tabernacle, nous a permis à tous de recevoir la grâce et les bénédictions du salut. À travers le tabernacle, nous pouvons connaître les bénédictions que Dieu nous a données. À travers le tabernacle, nous pouvons venir devant le trône de la grâce de Dieu et connaître et croire à la grâce du salut qui nous permet de recevoir le salut une fois pour toutes. Tout le monde, comprenez-vous? À travers le tabernacle, nous pouvons voir et croire à quel point notre Seigneur nous a sauvés, toi et moi, de façon délicate, à quel point il a planifié de façon délicate pour nous sauver, et comment il a accompli ce plan pour faire de nous, pécheurs, des personnes justes. Avez-vous peut-être cru vaguement en Jésus jusqu'à maintenant? Avez-vous peut-être cru que le bleu signifie le ciel? Connaissez-vous et croyez-vous seulement avec la foi du pourpre et du cramoisi, que le roi des rois, Jésus-Christ, est venu sur cette terre et nous a sauvés sur la croix? Si c'est le cas, vous devez maintenant rencontrer la vraie foi. Vous devez clairement connaître la foi bleue, le baptême de Jésus, et recevoir la grâce incommensurable du salut donné par Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés par le sang et le Saint-Esprit seulement. Dieu parle clairement du bleu, du cramoisi et du pourpre. Et à travers ses trois fils, il nous dit clairement comment Jésus nous a sauvés. Notre Dieu a délicatement montré l'œuvre du salut de Jésus à travers le tabernacle. Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle, puis, à travers ce tabernacle, a promis que Dieu nous sauverait de cette façon. Et comme il l'a promis, Jésus-Christ est venu sur cette terre revêtu de chair humaine et, dans l'eau du Jourdain, le bleu, a reçu le baptême pour prendre sur lui les péchés du monde. À travers le baptême, Jésus a réellement sauvé les pécheurs de tous les péchés. C'est pourquoi, combien délicat, combien précis, combien certain est le salut que nous avons reçu. Quand vous entrez dans le lieu saint, vous voyez le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel de l'encens. Avant d'entrer dans le lieu très saint, où se trouve l'arche de l'alliance de Dieu, nous qui avons été sauvés par la foi sommes dans le lieu saint où se trouve le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel de l'encens. Dans ce lieu saint, brillant magnifiquement d'or, nous pouvons manger librement le pain de la parole et vivre. Quelle bénédiction est-ce là ? Avant d'aller au royaume de Dieu, nous, en tant que ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui ont été pleinement sauvés, vivons dans l'Église de Dieu. L'Église de Dieu qui nous donne le pain de vie est le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est-à-dire dans l'Église de Dieu, se trouve le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Le chandelier a été fabriqué en martelant un talon d'or pur pour en faire la base, la tige, les coupes, les pommes et les fleurs. Tout comme ce chandelier fait d'un talon d'or pur martelé, Dieu nous dit que nous, les justes, devons nous unir à l'Église de Dieu. Et sur la table des pains est placé le pain sans levain, qui ne contient aucun levain mélangé, ce qui signifie la nourriture de la parole pure de Dieu, non souillée par le mal et la saleté du monde. Le lieu saint, c'est-à-dire l'Église de Dieu, répand la parole pure de Dieu sans levain, vit sans commettre le mal devant Dieu, et vit avec une foi pure. Devant le lieu très saint se trouve l'autel des parfums. L'autel des parfums est l'endroit où l'on offre des prières à Dieu. À travers les ustensiles dans le lieu saint, Dieu nous dit que lorsque nous nous présentons devant lui, il doit y avoir unité, foi en la parole pure de Dieu, et prière. Seuls les justes peuvent prier, car Dieu écoute seulement les prières des justes. Et seul celui qui prie devant Dieu peut rencontrer Dieu. De cette manière, le lieu saint nous montre combien il est glorieux d'avoir été sauvé dans l'Église de Dieu. Les matériaux principaux utilisés dans le tabernacle, le fil bleu, le baptême que Jésus a reçu, le fil cramoisi, Jésus prenant tous nos péchés par son baptême et mourant sur la croix, recevant le jugement pour le péché, et le fil pourpre, Jésus et Dieu, nous parlent de la foi indispensable que nous devons avoir. Ces trois éléments sont tout dans notre foi. Si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et, en tant que Dieu lui-même, nous a sauvés, nous les pécheurs, à travers le fil bleu, le cramoisi et le pourpre, nous pouvons entrer dans le lieu saint doré et splendide où demeure la présence de Dieu. Si quelqu'un ne croit pas aux œuvres de Jésus montrées dans ses trois fils, peu importe combien il dit croire en Jésus, il ne peut pas entrer dans le lieu saint. Même si quelqu'un dit croire en Jésus, ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans le sanctuaire. Ceux qui habitent dans la cour du tabernacle avec une foi erronée. Aujourd'hui, même en croyant en Jésus et en menant une vie de foi, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas entrer dans le lieu saint. Il y a beaucoup de gens qui veulent être sauvés en croyant de façon grossière jour après jour. Ceux qui pensent que croire seulement au sang de Jésus-Christ et que Jésus est Dieu et le roi des rois est suffisant pour être sauvés sont exactement de telles personnes. Ils croient en Jésus d'une façon très simpliste. Ils ne croient qu'au sang de Jésus et vont tous les jours à l'autel des holocaustes pour prier aveuglément. Aujourd'hui aussi, je suis un pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je te suis si reconnaissant d'avoir été crucifié et d'être mort à ma place. Ô Seigneur, je t'aime. Après avoir fait cela le matin et être retourné, quand le soir arrive, ils reviennent à nouveau à l'autel des holocaustes et disent la même prière. Ceux qui croient en Jésus comme cela mais, en tant que pécheurs avec du péché dans leur cœur, font l'aller-retour chaque matin, chaque soir, chaque mois à l'autel des holocaustes sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau et sont tombés dans l'erreur de croire selon leurs propres pensées. Ils placent l'offrande sacrificielle sur l'autel des holocaustes, où le feu rouge vif flambe, et offrent le sacrifice brûlé. Tandis que la viande brûle dans le feu rouge vif, l'odeur de la viande brûlée s'élève, et une fumée noire et blanche monte continuellement. L'autel des holocaustes n'est pas un lieu pour pleurer en demandant que le péché soit enlevé, mais c'est en réalité un lieu qui rappelle le feu terrifiant de l'enfer pour le péché. Là, matin et soir, ils vont et disent, « Seigneur, j'ai péché. Pardonne mon péché », et, ayant l'impression d'avoir été pardonné par eux-mêmes, ils rentrent chez eux heureux. Je suis pardonné, tu es pardonné, nous sommes pardonnés. Ils fredonnent joyeusement des chansons en rentrant. Mais ce sentiment n'est que momentané. Avant longtemps, ils pêchent à nouveau et disent, « Seigneur, je suis un pécheur, et finissent par retourner devant l'autel des holocaustes. Ceux qui vont à l'autel des holocaustes comme s'ils allaient au travail chaque jour, et en reviennent comme s'ils rentraient du travail chaque jour, restent des pécheurs chaque jour, même s'ils croient en Jésus. De telles personnes ne peuvent jamais entrer dans le Saint Royaume de Dieu. Alors, qui est-ce qui, par la foi, reçoit la rémission complète des péchés et entre dans le lieu saint de Dieu? C'est celui qui connaît et croit au secret du fil bleu, pourpre et cramoisi que Dieu a établi. Une telle personne passe devant l'autel des holocaustes avec la foi qui croit au baptême de Jésus, par lequel ses péchés lui ont été transmis, et à sa mort sur la croix. Et après s'être tenu devant la cuve, réfléchissant à nouveau à la manière dont tous les péchés ont été transmis par le baptême, et en se lavant les mains et les pieds, il peut entrer dans le lieu saint de Dieu. Celui qui croit à l'évangile de l'eau et de l'esprit et a reçu la rémission des péchés entre au ciel par la foi parce qu'il a passé l'épreuve de la foi. J'espère que chacun de vous connaîtra et croira que le fil bleu dans la Bible signifie le baptême de Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus, mais j'ai vu tant de fois qu'il est rare de trouver quelqu'un qui va jusqu'à croire à la foi de l'eau le fil bleu, qui est le baptême de Jésus. C'est une chose tellement déchirante. Jésus n'est pas simplement venu sur cette terre en tant que Dieu et mort sur la croix, pourtant, beaucoup de gens, laissant de côté la foi la plus importante dans le baptême de Jésus, croient seulement partiellement, et c'est vraiment déchirant. Même maintenant, j'espère que chacun de vous connaîtra et croira à la foi du fil bleu, pourpre et cramoisi et deviendra celui qui entre dans le royaume de Dieu. Le fil bleu, le fil pourpre et le fil cramoisi, qui sont les matériaux du tabernacle, représentent, et nous devons être sauvés en croyant au Seigneur, qui est la substance. Notre Seigneur m'a sauvé, moi et toi. Lorsque nous regardons le tabernacle, nous venons à comprendre avec quelle minutie le Seigneur m'a sauvé, moi et toi. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'en être si reconnaissants. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur qui nous a sauvés, nous pécheurs, du péché avec le fil bleu, le fil pourpre et le fil cramoisi, et qui nous a aussi donné la foi de croire dans les fils bleus, pourpre et cramoisi. Un pécheur doit passer à travers le jugement effrayant de Dieu sur le péché en recevant la grâce de Dieu. Sinon, il ne pourra jamais entrer dans le sanctuaire. Comment quelqu'un qui n'a pas passé à travers le jugement pour le péché peut-il ouvrir la porte du tabernacle et entrer dans le sanctuaire? Il ne peut pas entrer. Si une telle personne entre dans le sanctuaire, elle sera maudite et deviendra aveugle. Oh, c'est éblouissant! Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas voir? Quand j'étais dehors, je pensais que je pourrais tout voir si seulement j'entrais dans le sanctuaire. Pourquoi est-ce que je ne vois rien et pourquoi est-ce complètement sombre? Quand j'étais à l'extérieur du sanctuaire, je pouvais bien voir. Il disait que ce serait lumineux à l'intérieur du sanctuaire, mais pourquoi est-ce encore plus sombre? C'est parce qu'ils ont été spirituellement aveuglés en raison de leur manque de foi pour croire dans les fils bleus, pourpre et cramoisi. De cette manière, un pécheur ne peut jamais entrer dans le lieu saint. Notre Seigneur nous a permis de recevoir la bénédiction de vivre éternellement dans le lieu saint sans être aveuglé à l'intérieur de celui-ci. Dieu a parlé avec précision de la manière dont il nous sauverait à travers les fils bleus, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors utilisé dans le tabernacle, et selon cette parole prophétique, il nous a sauvés de tous les péchés. Le Seigneur nous a sauvés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit afin que nous ne soyons pas aveuglés mais que nous puissions jouir de la grâce brillante de Dieu et vivre éternellement. Il nous a sauvés à travers les fils bleus, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Le Seigneur nous a dit qu'il a promis à travers la parole délicate de Dieu et a accompli cette promesse pour nous sauver. Croyez-vous que vous et moi avons été sauvés par l'œuvre délicate de Jésus révélée dans le fil bleu, le fil pourpre, le fil cramoisi et le fin lin retors? Oui. Avez-vous été sauvés de manière grossière et négligente? Non. Vous ne pouvez pas être sauvés sans croire dans les fils bleus, pourpre et cramoisi. Le fil bleu ne fait pas référence à Dieu. Le bleu fait référence au baptême de Jésus dans le Jourdain, par lequel il a pris sur lui tous les péchés des pécheurs du monde. Cependant, même si quelqu'un ne croit pas dans le fil bleu, qui est le baptême de Jésus, il peut encore aller jusqu'à l'autel des holocaustes à l'intérieur du tabernacle. Il peut même aller jusqu'au bassin placé après l'autel, mais il ne peut pas entrer dans le lieu saint où se trouve Dieu. Les seuls qui peuvent ouvrir la porte du tabernacle et entrer dans le lieu saint sont les enfants de Dieu qui ont pleinement cru à l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui ont reçu l'enlèvement de leurs péchés. Cependant, personne qui a encore du péché ne peut entrer dans le lieu saint. Sans croire dans les significations spirituelles révélées dans ces trois fils, vous ne pouvez pas passer à travers la porte du lieu saint. Les gens ordinaires pensent généralement que simplement entrer dans la cour du tabernacle par sa porte signifie qu'ils ont été sauvés, mais en réalité, ce n'est pas le salut. Alors, jusqu'où doit-on entrer pour être considéré comme sauvé? Ce n'est pas le salut que d'entrer simplement dans la cour du tabernacle, celui qui entre dans le sanctuaire où se trouve Dieu, c'est celui qui est sauvé. La différence entre la foi à l'extérieur et à l'intérieur du tabernacle. L'autel des holocaustes et la cuve dans la cour extérieure du tabernacle sont tous faits de bronze, et la clôture est faite de bois, d'argent et de bronze. Cependant, une fois que vous entrez dans le lieu saint, les matériaux changent complètement. Par conséquent, la caractéristique du lieu saint est qu'il est appelé la « maison d'or ». Les 48 planches du lieu saint, faites de bois d'acacia, sont toutes recouvertes d'or. La table des pains de proposition et l'autel des parfums à l'intérieur du lieu saint étaient également faits de bois d'acacia recouvert d'or, et le chandelier a été martelé à partir d'un talon d'or pur. Ainsi, tous les ustensiles à l'intérieur du lieu saint sont faits d'or. D'autre part, de quoi sont faits les socles des planches du tabernacle? Ils sont faits d'argent. Les socles des piliers de la clôture de la cour étaient faits de bronze, mais les socles des planches du tabernacle étaient faits d'argent. De plus, les piliers de la clôture de la cour étaient en bois, mais les planches du lieu saint étaient en bois d'acacia recouvertes d'or. Cependant, de quoi sont faits les quatre socles des piliers de l'entrée du tabernacle? Ils sont faits de bronze coulé. Alors que les socles des planches du tabernacle étaient en argent, les piliers de l'entrée du tabernacle étaient en bronze coulé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quiconque vient devant Dieu doit passer par le jugement de ses péchés. Cependant, si quelqu'un, étant dans un état de péché, atteint la mort et vient sous le jugement de Dieu, comment peut-il venir devant Dieu? S'ils meurent avec le péché encore dans leur cœur, ils ne peuvent pas venir devant Dieu. Par conséquent, Dieu a utilisé le bronze comme base pour les quatre piliers de l'entrée du tabernacle. En d'autres termes, l'utilisation du bronze comme base nous montre que, bien que nous devions être jugés pour nos péchés, Jésus a pris nos péchés par son baptême et a été jugé à notre place à cause de ses péchés. Nous étions ceux qui devions être jugés pour nos péchés. Mais l'offrande sacrificielle a pris tout le jugement pour ses péchés à notre place. Quelqu'un est mort à notre place afin que nous n'ayons pas à mourir. Celui qui a reçu le baptême pour prendre sur lui nos péchés et qui a été jugé et est mort à notre place n'était autre que Jésus-Christ. La foi représentée par le fil bleu est la foi qui croit que Jésus-Christ a pris sur lui tous nos péchés par son baptême et a effacé tous nos péchés. Le Père Céleste, en recevant la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire en transférant tous les péchés de toute l'humanité à lui par le baptême de Jésus, et en le jugeant à notre place sur la croix, a ainsi résolu tous les péchés de nous, les humains. Par conséquent, à partir de maintenant, il n'y a plus aucun jugement que nous devons affronter à cause du péché. La foi représentée par le fil cramoisi est la foi qui croit dans le sang que Jésus a versé sur la croix. Cette foi croit que Jésus-Christ a pris le jugement pour nos péchés à notre place. Seuls ceux qui, en croyant au baptême de Jésus, lui transfèrent tous leurs péchés, et qui, en croyant au sang qu'il a versé sur la croix lorsqu'il a été mis à mort dans la chair pour tous ses péchés, ont reçu le jugement pour tous les péchés, seuls ceux-là peuvent entrer dans le lieu saint. La raison pour laquelle les socles des piliers de l'entrée du tabernacle sont faits de bronze est précisément à cause de cela. Par conséquent, nous devons croire au baptême de Jésus, par lequel il a pris tous nos péchés, et au sang du Christ, qui a été jugé à notre place. Dieu a déterminé que seuls ceux qui ont une foi ferme dans le fait que Jésus-Christ, qui les a sauvés de tous leurs péchés, et Dieu lui-même, fil pourpre, dans le baptême de Jésus, fil bleu, et dans le fait que Jésus a été jugé à la place de nos péchés, fil cramoisi, peuvent entrer dans le lieu saint. Dieu n'a permis qu'à ceux qui, en mettant leur foi uniquement dans ce que Jésus a fait, ont reçu le jugement pour leur péché par la foi, d'entrer dans le lieu saint. Les socles des piliers du tabernacle ont été coulés en bronze. Les socles de bronze portent la signification spirituelle que tous les pécheurs, nés comme descendants d'Adam, doivent avoir la foi dans le fil bleu, le baptême de Jésus, le fil cramoisi, Jésus étant jugé pour les pécheurs, et le fil pourpre, Jésus, qui est Dieu, nous a parfaitement sauvés du péché par l'eau et le sang, afin de pouvoir entrer dans le lieu saint où se trouve Dieu. Le fait que les socles des piliers aient été faits de bronze parle de l'évangile de Dieu, selon la parole, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, Romains chapitre 6 verset 23, qui déclare que Jésus a effacé tous nos péchés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Nous devons croire en la parole de Dieu et ne pas la négliger. Ce n'est pas parce que vous croyez en Jésus que vous êtes automatiquement sauvé. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église que vous êtes automatiquement né de nouveau. Dans Jean chapitre 3, notre Seigneur a dit que seuls ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit peuvent voir le royaume de Dieu. À Nicodème, un chef des Juifs qui croyait bien en Dieu, Jésus a dit : « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu », a-t-il déclaré clairement. Une personne qui croit en Jésus ne peut naître de nouveau que si elle a foi dans le fil bleu que Jésus a pris tous les péchés en une seule fois lorsqu'il a été baptisé, le fil cramoisi que Jésus est mort pour nos péchés, et le fil pourpre Jésus est le Sauveur, Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, qui représente les œuvres que Jésus a accomplies. Par conséquent, tous les pécheurs doivent croire, à travers les fils bleus, pourpres et cramoisis utilisés dans le tabernacle, que Jésus est le Sauveur des pécheurs. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne croient pas cela, ils ne peuvent pas naître de nouveau même s'ils croient en Jésus, et ils ne connaissent pas la parole concernant la nouvelle naissance. Notre Seigneur a clairement dit que même si vous croyez en Jésus, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez jamais entrer dans le sanctuaire, le royaume du Père, et vous ne pouvez pas mener une vie de foi correcte. D'un point de vue humain, nous pourrions penser, comme ce serait bien si tous ceux qui croient en Jésus étaient nés de nouveau. N'est-ce pas? Tu es sauvé, je suis sauvé, nous sommes sauvés, Jean-Jean. Si le simple fait d'invoquer le nom de Jésus, sans connaître en détail l'œuvre que Jésus a accomplie pour sauver l'humanité, ou même de simplement dire en parole « je crois », suffisait pour être sauvé, alors croire en Jésus serait considéré comme extrêmement facile et commode. Si leur foi était correcte, aurions-nous vraiment besoin d'évangéliser? Ils pensent qu'en invoquant simplement le nom de Jésus, ils sont sauvés, et puisque de toute façon ils sont sauvés, ils croient pouvoir encore vivre comme ils veulent, prenant le salut à la légère. Cependant, Dieu a dit que vous ne pouvez jamais naître de nouveau avec une telle foi. Au contraire, il dit que ceux qui prétendent être sauvés sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit sont des ouvriers d'iniquité. Naître de nouveau n'est pas de la chair, mais de l'esprit. Jésus est devenu un être humain et est venu sur cette terre pour nous sauver par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme nous l'avons entendu par tradition orale, le père terrestre de Jésus était charpentier, et Jésus a servi sous son père charpentier, travaillant comme charpentier pendant 29 ans. Tout comme Jésus avait à la fois la divinité et l'humanité, nous qui sommes des justes nés de nouveau possédons également ces deux natures. Nous avons à la fois la chair et l'esprit. Par conséquent, si quelqu'un dit qu'il croit en Jésus, mais que son esprit n'est pas né de nouveau, cela n'est pas véritablement être né de nouveau. S'il y a quelqu'un qui dit croire en Jésus alors que son esprit n'est pas né de nouveau, cette personne est comme Nicodème, qui a essayé de naître de nouveau d'une manière charnelle, et elle n'est jamais vraiment née de nouveau. Même si Jésus était l'essence même de Dieu, il est venu sur cette terre revêtu de la chair faible d'un être humain. C'est pourquoi, lorsque nous disons que nous sommes nés de nouveau, cela signifie que notre esprit est né de nouveau, non pas notre chair. Si toutes les personnes qui croient maintenant en Jésus étaient réellement nées de nouveau, je serais probablement connu comme un pasteur très doux. Pourquoi ? Parce que maintenant, alors que je prêche avec un cœur désespéré désirant que ceux qui ne connaissent pas la vérité viennent à la connaître, je finis par élever la voix et crier, mais devant ceux qui sont réellement nés de nouveau, je n'aurais pas fait cela. Je serais probablement connu comme un pasteur très gentil, très poli, courtois, doux, calme et plein d'humour. Si je le voulais, je pourrais facilement le faire. Ce n'est pas que je manque de capacité pour ancrer dans vos cœurs cette pensée, « Ah, ce pasteur ressemble vraiment à l'image sainte et miséricordieuse de Jésus. » Mais la chair humaine ne peut pas être changée, et ce n'est pas parce que la chair de quelqu'un paraît un peu gentille, douce et miséricordieuse que cette personne est un juste né de nouveau. On ne peut pas naître de nouveau par la chair. Seul l'esprit, l'autre nature que possède une personne, doit naître de nouveau en croyant en la parole de Dieu. Pour croire correctement en Jésus, il faut connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, Jean chapitre 8 verset 32. Seule la vérité de Dieu peut nous faire naître de nouveau, libérer nos âmes de l'esclavage du péché, et nous faire naître de nouveau en tant que justes. Ce n'est qu'en connaissant correctement la Bible, en y croyant correctement, et en la prêchant correctement que nous pouvons entrer dans le lieu saint, mener une vie de foi, et aussi nous approcher du propitiatoire dans le lieu très saint. L'évangile de l'eau et de l'esprit, qui fait naître nos âmes de nouveau, est la vérité, et la foi qui croit en cela enlève tous nos péchés et nous permet de vivre avec Dieu dans le monde de la foi. L'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs nous permet, en tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau, de vivre heureux avec le Seigneur dans un monde spirituel rempli de lumière. Mes amis, croire aveuglément en Jésus n'est pas une véritable foi. Du point de vue humain, j'ai beaucoup de défauts. Je ne dis pas cela seulement avec des mots, quand j'essaie réellement de faire quelque chose, je réalise à quel point je suis insuffisant. Par exemple, lorsque je prépare la retraite afin que les croyants et les nouvelles âmes qui y assistent puissent écouter la parole confortablement, recevoir beaucoup de grâce dans leur cœur, être bénis pour naître de nouveau, et repartir avec du repos tant pour le corps que pour le cœur, je découvre souvent combien de choses je n'ai pas réussi à préparer parce que je n'y avais pas pensé à l'avance. Des choses qui auraient pu être faites avec juste un peu plus d'attention et de soin finissent toujours par se révéler au moment où la retraite commence, après la période de préparation. Même pendant la préparation de la retraite, si j'avais juste mis un peu plus de cœur et de soin, les membres de l'Assemblée et les nouvelles âmes auraient bien écouté la parole, reçu le salut, et passé un bon moment, mais je me dis, pourquoi n'ai-je pas pensé et préparé ces choses à l'avance? De plus, même lorsque nous nous réunissons et travaillons toute la journée pour la préparation, il y a tellement de cas où le travail est inefficace et le résultat ne correspond pas à l'effort fourni, et je ressens personnellement très fort mes insuffisances. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi n'ai-je pas pu penser jusque-là? Pourquoi ne puis-je pas faire quelque chose qui ne demanderait qu'un peu plus d'attention? En faisant réellement le travail de service de l'Évangile, je ressens profondément à quel point je suis insuffisant. Alors, j'en viens à savoir et à reconnaître, voilà le genre de personne que je suis. Je suis aussi insuffisant. Je me fais une haute idée de moi-même dans mon cœur, mais ce n'est pas seulement en parole que je dis que je suis insuffisant, je vois que je ne peux même pas faire les petites choses à fond et que je fais juste les choses grossièrement. Quand je me regarde, je ressens vraiment beaucoup mes insuffisances. Nous obtenons la sainteté du péché par la foi au fil bleu. Lorsqu'une personne pense à elle-même, elle peut avoir l'impression de ne commettre aucune erreur et de tout bien faire. Cependant, lorsqu'elle essaie réellement de faire quelque chose elle-même, sa véritable capacité et ses insuffisances sont mises à nu. Elle en vient à voir qu'elle est vraiment insuffisante et qu'elle est quelqu'un qui commet inévitablement le péché. De plus, lorsqu'on se laisse emporter par la pensée que l'on agit bien, on tombe dans l'illusion que l'on entrera dans le royaume de Dieu parce qu'on croit bien. Mais la chair n'est jamais transformée. Il n'y a pas de chair qui ne soit pas insuffisante, et elle commet toujours des fautes et révèle des insuffisances. Si l'un de vous pense qu'il peut entrer dans le royaume du Seigneur parce que sa chair fait quelque chose de bien, sachez que quoi que la chair fasse de bien, cela ne sert à rien devant Dieu. La seule chose qui nous permet d'entrer dans le royaume du Seigneur est la foi dans la vérité du salut du Seigneur, le fil bleu, le fil pourpre et le fil cramoisi. Parce que le Seigneur nous a sauvés par le fil bleu, pourpre et cramoisi, nous pouvons entrer dans le sanctuaire par la foi. Si Dieu ne nous avait pas sauvés par le fil bleu, pourpre et cramoisi, aucun de nous ne pourrait jamais entrer dans le sanctuaire. Peu importe la qualité de notre foi, nous ne pouvons pas entrer. Pourquoi ? Parce que cela signifierait que nous ne pourrions entrer que si nos actes quotidiens ou notre foi issue de notre propre chair étaient suffisamment bons. Si nous ne pouvions entrer dans le royaume de Dieu qu'en ayant une bonne foi chaque jour, comment pourrions-nous, nous qui avons la chair, garder une bonne foi chaque jour pour entrer ? Nous ne pouvons pas éviter de commettre le péché chaque jour, et nous n'avons pas non plus la foi pour revenir en arrière lorsque nous péchons, alors comment pourrions-nous entrer au ciel en gardant une bonne foi chaque jour ? Cela signifierait que nous devrions prier des prières de repentance sans faute chaque jour, jeûner, et être un corps saint qui ne commet jamais de péché, mais qui pourrait faire cela ? Si Dieu ne nous avait pas sauvés par le fil bleu, pourpre et cramoisi, il n'y aurait personne parmi nous qui pourrait entrer dans le royaume des cieux. Les gens sont tels que même s'ils ont une bonne foi pendant un moment, cette foi disparaît bientôt. À mesure qu'on répète le cycle d'avoir une bonne foi puis de la perdre, à la fin, on devient confus quant à savoir si l'on a même la foi, et on perd même la foi qu'on avait au début. Finalement, on finit par devenir encore plus pécheur malgré le fait de croire en Jésus. Mais Jésus a sauvé nous, pécheurs insuffisants, selon son plan de salut montré dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Il nous a donné la rémission des péchés. Ce n'est que lorsqu'une personne possède cette preuve qu'elle peut attacher la plaque d'or gravée de « Sainteté à l'Éternel » sur la tiare, comme le prêtre. Et ce n'est qu'alors qu'on peut accomplir les devoirs du prêtre. Les personnes qui peuvent accomplir le devoir sacerdotal de témoigner aux autres de la « Sainteté à l'Éternel » sont celles qui ont dans leur cœur la preuve qu'elles ont reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Sur le turban que porte le prêtre, il y a une plaque d'or, et ce qui attache cette plaque d'or au turban est un cordon bleu. Mais pourquoi Dieu a-t-il ordonné que le turban soit attaché avec un cordon bleu ? Parce que ce qui était absolument nécessaire pour que notre Seigneur nous sauve, c'était le fil bleu, et ce fil bleu parle du baptême que Jésus a reçu pour porter tous nos péchés. Si le Seigneur n'avait pas porté nos péchés et ne les avait pas ôtés par le baptême dans le Nouveau Testament, qui correspondait à l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, peu importe à quel point nous croyons en Jésus, nous ne pourrions jamais obtenir la sainteté devant l'Éternel. C'est pourquoi il a ordonné que la plaque d'or soit attachée au turban avec le cordon bleu. Et chaque fois que les gens voient le souverain sacrificateur portant la plaque d'or gravée, « Sainteté à l'Éternel », ils peuvent se rappeler dans leur cœur qu'ils doivent être rendus saints en recevant la rémission des péchés devant Dieu. Et ils en viennent à réfléchir à la manière dont nous pouvons devenir saints devant l'Éternel. Alors nous devons aussi réfléchir à ceci, comment sommes-nous devenus justes ? Regardons Matthieu chapitre 3 verset 15, « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jésus nous a tous sauvés du péché en recevant le baptême. Parce que Jésus a reçu le baptême et a pris sur lui nos péchés, ceux qui le croient sont sans péché. Si Jésus n'avait pas reçu le baptême pour nous, comment pourrions-nous oser dire que nous sommes sans péché ? Le simple fait de penser à Jésus mourant sur la croix et d'essayer de faire couler des larmes qui ne viennent pas nous donne-t-il la rémission des péchés ? Parce qu'il est trop difficile de ressentir de la tristesse rien qu'en pensant à Jésus, qui est mort pour nous sans lien direct avec nous, beaucoup finissent par pleurer en pensant à leur grand-père ou leur grand-mère décédée, ou en se souvenant des moments où ils étaient malades ou souffraient pendant des périodes difficiles. Même s'ils pleurent ainsi artificiellement ou sanglotent par compassion pour Jésus qui est mort sur la croix, le péché ne peut jamais être effacé. Tout comme la plaque d'or gravée de « Sainteté à l'Éternel » est attachée avec un cordon bleu, c'est le baptême de Jésus qui enlève nos péchés et nous rend saints. Parce que Jésus a porté tous nos péchés à travers son baptême, parce que Dieu le Père a fait retomber sur son Fils l'iniquité de nous tous, et parce que tous les péchés du monde ont été transférés à Jésus par le baptême, nos cœurs ont reçu la rémission des péchés. Même si nous n'avons pas d'émotion dans nos cœurs ou que nos actions sont insuffisantes, parce que la parole du fil bleu qui apporte le salut est écrite ici dans la Bible, nous sommes devenus justes en croyant en ce fait. Quand nous regardons notre chair, nous ne pouvons pas être confiants, mais dans nos cœurs, nous avons la foi du fil bleu, c'est-à-dire le parfait évangile de l'eau et de l'esprit, qui nous dit que Jésus a porté tous les péchés par le baptême et a reçu le jugement sur la croix. C'est pourquoi nous pouvons proclamer l'Évangile avec confiance et assurance. Parce que nous avons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous pouvons vivre avec la foi des justes, et nous transmettons aussi cette foi des justes aux autres. Je ne peux exprimer combien je suis reconnaissant pour la grâce du Seigneur. Je suis d'autant plus reconnaissant que notre salut n'a pas été accompli de manière négligente ou superficielle. Le salut que nous avons reçu n'est pas un salut ordinaire que n'importe qui peut obtenir sans croire selon la loi du salut que Dieu a planifié et accompli. Il n'est jamais vrai que tous ceux qui crient simplement « Seigneur, Seigneur » à leur manière seront sauvés. C'est parce que nous avons dans nos cœurs la preuve que nos péchés ont été effacés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par lequel le Seigneur nous a sauvés en détail avec le fil bleu, cramoisi et pourpre, et le fin lin retors que nous sommes tellement reconnaissants pour ce si grand salut. Il est dit que tous ceux qui croient au Fils de Dieu, Jésus-Christ, ont cette preuve dans leur cœur, 1 Épître de Jean chapitre 5 verset 10. S'il n'y a pas de preuve dans le cœur, cela fait passer Dieu pour un menteur, donc nous devons avoir l'assurance du salut dans nos cœurs. Ceux qui ont l'assurance du salut peuvent fournir hardiment la preuve suivante sans se sentir le moins du monde intimidé, même si quelqu'un demande de manière provocante et sceptique, « Montre-moi la preuve que tu es sauvé. » Tu dis que tu as reçu le don du Saint-Esprit lorsque tes péchés ont été effacés, alors montre-moi cette preuve. Ils peuvent témoigner avec confiance comme suit. En moi se trouve l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par lequel Jésus m'a parfaitement sauvé. Par cela, j'ai reçu un salut parfait, donc je suis sans péché. S'il n'y a pas de preuve du salut dans le cœur, alors on n'a pas reçu le salut. Peu importe combien une personne dit qu'elle croit en Jésus, s'il n'y a pas de preuve, ce n'est pas le salut. Ce n'est qu'un amour non partagé. Pourquoi mon cœur bat-il, chaque fois que je la vois? Chaque fois que je la vois, je dois être dans un amour à sens unique. Même si le propre cœur de quelqu'un tremble, si l'autre personne n'a aucune réaction, c'est exactement ce qu'est un amour à sens unique. Celui qui est la cible de cet amour à sens unique est comme ceci. Pourquoi mon cœur ne bat-il pas, même quand je vois cette personne, même quand je vois cette personne, je suppose que je ne l'aime pas. Peu importe ce que l'autre personne ressent, cela ne lui fait absolument rien. De la même manière qu'une personne que vous ne pouvez pas aimer ne vous aimera pas soudainement simplement parce que vous la regardez avec un cœur palpitant, avec des attentes, en ressentant de l'amour et en lui adressant des regards pleins de nostalgie, de même, Dieu n'embrassera pas quelqu'un qui n'a pas reçu la rémission des péchés simplement parce qu'il le regarde avec un cœur angoissé. C'est exactement ce qu'est un amour à sens unique. Pour aimer Dieu, nous devons l'aimer en croyant en la parole de Dieu dans la vérité. Nous ne devons pas aimer Dieu d'un amour unilatéral uniquement par nous-mêmes. Nous devons lui parler de notre amour puis l'aimer après avoir su s'il nous aime vraiment ou non. Si l'autre personne ne vous aime pas, mais que vous lui donnez tout votre amour, à la fin, vous n'aurez qu'un cœur blessé. Le Seigneur nous a revêtus de la gloire d'être sauvés du péché afin que nous ne fassions pas face au jugement du péché. Il nous a permis d'entrer dans le royaume de Dieu, de vivre avec Dieu, et nous a donné le don de recevoir la rémission des péchés devant Dieu par sa grâce. Le salut de Dieu nous a apporté d'innombrables bénédictions spirituelles des cieux. Ce seul salut que Dieu nous a donné par l'eau, le sang et l'esprit nous a permis de recevoir toutes les bénédictions que Dieu accorde. Le salut que Jésus lui-même nous a accordé. Notre Seigneur nous a sauvés avec le fil bleu, le fil pourpre et le fil cramoisi. Le Seigneur nous a donné un salut fait de trois fils de couleurs différentes. Ce salut du fil bleu, pourpre et cramoisi est le don du salut que Dieu a donné. Ce don du salut est ce qui nous permet d'entrer et de vivre dans le sanctuaire. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit a rendu juste vous et moi, et il nous a permis de venir à l'Église de Dieu, de manger le pain que Dieu donne, et de vivre une vie pure. Il nous a permis de recevoir la grâce en mangeant la parole spirituelle de Dieu dans l'Église. Parfois, en nous laissant venir devant le trône de la grâce de Dieu pour prier, il nous a aussi donné la foi pour saisir la grâce abondante que Dieu déverse. À cause de cette seule chose, le salut, d'immenses grâces sont devenues les nôtres. C'est pourquoi le salut est si précieux. Jésus nous a dit de bâtir notre maison sur le roc. Ce roc, c'est le salut qui vient par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, nous devons être sauvés et vivre une vie de foi, être sauvés et aller au ciel, être sauvés et jouir de la vie éternelle, et être sauvés et devenir justes. Ce monde est maintenant entré dans les derniers jours. Par conséquent, en cette époque, les gens ont encore plus besoin de recevoir le salut à travers la parole précise. Il y a des gens qui disent, « Devons-nous vraiment connaître et croire au message des fils bleus, pourpres et cramoisis ? Ne pouvons-nous pas être sauvés simplement en croyant approximativement en Jésus ? Si nous sommes sauvés comme cela, n'est-ce pas suffisant ? Est-il vraiment nécessaire de parler d'une vie de foi ? Cependant, la raison pour laquelle je le répète est que seules les personnes qui ont reçu l'effacement des péchés dans leur cœur peuvent vivre une vie de foi. Parce que le cœur d'une personne qui a reçu la rémission des péchés est un temple saint où habite le Saint-Esprit, ils doivent vivre une vie de foi afin de ne pas souiller cette sainteté. La vie des justes est à un niveau complètement différent de celui des pécheurs. Du point de vue de Dieu, la vie des pécheurs est en dessous de la norme. La vie des pécheurs est pleine d'hypocrisie. Les pécheurs font beaucoup d'efforts pour vivre d'une manière qui correspond à la loi par eux-mêmes. Ils établissent des règles sur la façon de marcher, de vivre, de parler, de rire. Mais cela est très éloigné de la vie de foi qui vient de la foi des justes. La vie des justes est très différente de la vie des pécheurs. Dieu parle délicatement aux justes, « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même, c'est la loi de vie que Dieu a donnée aux justes. » Il convient à nous, les justes, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de tout notre esprit, et de vivre en suivant la volonté de Dieu. Et nous devons penser à tous les pécheurs du monde, nos voisins, comme nous pensons à nos propres corps, et nous devons aussi leur prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons faire beaucoup d'investissements pour sauver nos voisins. C'est la vie d'un chrétien. Vous ne pouvez pas réellement suivre la vie chrétienne avec l'état d'esprit que cela suffit si vous ne péchez pas vous-même. Avant d'être né de nouveau, je pratiquais une vie de foi légaliste dans une dénomination presbytérienne conservatrice, donc je suivais ce mode de vie légaliste très minutieusement. De nos jours, beaucoup de gens ont tendance à ne pas vivre de cette façon, mais parce que je pratiquais la vie religieuse depuis longtemps, j'étais très habitué à garder la loi dans ma vie quotidienne. Puisque la loi disait de se souvenir du jour du sabbat et de le garder saint, je ne travaillais absolument pas le dimanche, et j'étais si minutieux à garder la loi que je ne prenais même pas la voiture le dimanche. Si, à cette époque, vous étiez aussi forcé de vivre de cette façon, presque aucun d'entre vous ne serait capable de vivre correctement une telle vie légaliste. Ma vie avant d'être né de nouveau était aussi légaliste que cela. Mais la foi légaliste et la foi des justes sont complètement différentes. Tout le monde, avez-vous la foi du fil bleu, pourpre et cramoisi ? Parce que le salut de Jésus était contenu dans ses trois fils, nous pouvons entrer dans le sanctuaire par la foi. Et même avant que nous connaissions Jésus-Christ, lorsque nous étions encore faibles, Jésus avait déjà, il y a environ 2025 ans, reçu le baptême, pris sur lui tous nos péchés, et est mort sur la croix, recevant tout le jugement pour nos péchés. C'est pourquoi le salut a été accompli pour nous. Le salut du péché est déterminé en Jésus-Christ. Les personnes qui ne sont pas nées de nouveau sont comme celles qui, lorsqu'elles entrent dans le tabernacle, ne passent pas par la porte de la cour du tabernacle mais escaladent illégalement la clôture pour entrer. Pourquoi la clôture de l'un du tabernacle est-elle si blanche? C'est pénible, vraiment pénible. Pourquoi ne pas mettre un peu de rouge ou de bleu dessus? C'est ce qui est à la mode ces jours-ci. Mais pourquoi est-ce si blanc? C'est juste trop spécial. Et pourquoi est-elle si haute? Elle fait 2,25 mètres de haut. Je ne fais même pas 2 mètres, alors comment suis-je censé entrer quand c'est aussi haut? Bon, mettons une échelle et escaladons-la, disent-ils, et essaient d'entrer dans la cour du tabernacle. Une telle personne est quelqu'un qui essaie d'entrer par ses propres bonnes œuvres. Par la prière, l'offrande, la charité et la patience, ils escaladent la clôture de la cour du tabernacle, pensant, « Peu importe à quel point je suis mauvais, Sûrement je peux sauter de 2,25 mètres, puis il saute. Après avoir escaladé ainsi et se sentir satisfait, il regarde en arrière et voit l'hôtel des Holocaustes. En regardant devant depuis l'hôtel, il voit le sanctuaire, mais ce qui attire d'abord leur regard est la cuve placée devant le sanctuaire. La hauteur des piliers de la clôture de la cour est de 2,25 mètres, mais la hauteur des piliers et du voile à l'entrée du sanctuaire, où la présence de Dieu demeure, est de 4,5 mètres. Quant à entrer dans la cour du tabernacle, si vous avez simplement le désir d'entrer, vous pouvez y aller par votre propre volonté. Mais même si vous sautez par-dessus la clôture de 2,25 mètres et entrez dans le tabernacle, pour entrer dans l'endroit où la présence de Dieu demeure, vous ferez face aux piliers et aux voiles du sanctuaire, qui font 4,5 mètres de haut. C'est la limite de l'humanité. Cela signifie que lorsque nous croyons en Jésus pour la première fois, nous pouvons croire en tant que religion. Aussi, certaines personnes peuvent, par leur propre volonté, croire en Jésus comme leur sauveur personnel, ou croire en lui comme l'un des quatre grands sages. Peu importe comment on croit, la foi peut être tenue de la manière que l'on choisit, mais on ne peut pas vraiment être né de nouveau. Pour naître véritablement de nouveau, il faut passer par la porte faite de fil bleu, cramoisi et pourpre, par la foi. En croyant que Jésus est notre sauveur, qu'il est la porte de la vérité, et qu'il nous a sauvés à travers l'eau, le sang et l'esprit, nous sommes nés de nouveau devant Dieu. La foi qui croit à l'œuvre de Jésus révélée dans les trois fils est la foi de l'eau, du sang et de l'esprit. Il est libre de croire en autre chose, mais il n'y a jamais aucune assurance qu'en croyant en ces choses, on obtiendra le salut ou recevra une grande grâce. Seule cette foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit est confirmée par Dieu et permet de recevoir la grande grâce et la bénédiction du salut de Dieu. La foi des trois fils colorés, la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, est à un niveau différent des autres types de foi. Le but de cette foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit est de nous revêtir de la grâce de Dieu. Comprenez-vous? Quand nous pensons au tabernacle, pensons-nous simplement, c'est juste un carré sur une surface plane, et il y a une maison à l'intérieur. Si vous ne pensez qu'à cela, cela ne peut pas devenir une foi bénéfique pour vous. Le tabernacle nous transmet la foi complète, et nous devons connaître cette foi avec précision. Si vous ne connaissez pas bien le tabernacle, vous pourriez penser que la hauteur du sanctuaire à l'intérieur de la clôture de la cour du tabernacle de 2,25 mètres serait à peu près la même que celle de la clôture elle-même. Cependant, la hauteur du sanctuaire n'est pas seulement cela. Même si vous regardez le sanctuaire de l'extérieur de la cour sans entrer dans la cour du tabernacle, vous pouvez voir qu'il s'élève bien plus haut que la clôture de la cour. Bien que vous ne puissiez pas voir jusqu'au fond du sanctuaire, le fait que vous puissiez voir clairement le mur du sanctuaire montre que le sanctuaire est plus haut que la clôture de la cour du tabernacle. Ceux qui croient en Jésus et sont entrés par la porte de la cour du tabernacle reçoivent le lavement des péchés à l'autel des holocaustes et à la cuve d'airain, puis ils doivent entrer dans le sanctuaire. Pour entrer dans le sanctuaire, il doit certainement y avoir renoncement à soi-même. Les objets à l'intérieur du sanctuaire doivent être séparés de tous les objets à l'extérieur. Savez-vous ce que Satan le diable déteste le plus? Il déteste tracer la frontière entre l'intérieur et l'extérieur du sanctuaire. Mais rappelez-vous bien ceci. Dieu agit certainement à travers ceux qui tracent cette frontière. Dieu est satisfait de ceux qui tracent cette frontière, et il leur donne la grâce d'avoir et de vivre avec une foi brillante à l'intérieur du sanctuaire. Croyez que tous les objets à l'extérieur dans la cour et tous les matériaux utilisés là-bas ont été préparés et prédestinés par Dieu pour la rémission des péchés des gens. Et si vous croyez cela et que vous entrez par la foi dans le sanctuaire, Dieu, à partir de ce moment-là, déverse une grâce encore plus grande. Le propitiatoire est l'endroit où la grâce du salut est reçue. Sur le couvercle qui recouvre l'arche du témoignage à l'intérieur du lieu très saint, deux anges étendent leurs ailes l'un vers l'autre et regardent vers le bas. L'espace entre les deux anges au-dessus de l'arche du témoignage s'appelle le propitiatoire, et il est aussi appelé le siège de la grâce. Le propitiatoire est l'endroit où Dieu accorde sa grâce sur nous. Sur le couvercle de l'arche se trouvent les marques du sang de l'offrande sacrificielle sur laquelle les mains ont été posées. C'est parce que le grand prêtre asperge le sang du sacrifice cette fois sur ce propitiatoire lorsqu'il offre le sacrifice au nom du peuple d'Israël. Par conséquent, Dieu demeure sur le propitiatoire et accorde sa grâce au peuple d'Israël. Pour ceux qui croient cela, les bénédictions, la protection et la guidance de Dieu commencent. À partir de ce moment, ils deviennent de vraies personnes de Dieu et peuvent entrer dans le lieu saint. Parmi les nombreux chrétiens dans ce monde, il y en a certains qui ont la foi d'entrer dans le lieu saint, tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas la foi d'entrer dans le lieu saint. Quel genre de foi avez-vous ? Nous avons besoin de la foi qui trace une ligne claire de salut et nous permet d'entrer dans le lieu saint de Dieu. Seule celle-ci peut faire de vous une personne qui reçoit de grandes bénédictions devant Dieu. Cependant, avoir un tel cœur n'est pas si facile. Satan, le diable, déteste lorsque les gens tracent une ligne claire de salut, donc il ne cesse d'essayer de disperser cette ligne. Il dit : « Vous n'avez pas besoin de croire comme ça. Tout le monde ne croit pas de cette façon, alors pourquoi continuez-vous à en parler comme si c'était si important ? Faites-le simplement approximativement. » De cette manière, il essaie d'éparpiller cette ligne claire du salut. De plus, Satan, le diable, expose les faiblesses de notre chair et les transforme en problèmes. Tout le monde, voulez-vous devenir quelqu'un qui écoute les mots trompeurs de Satan, le diable, qui essaie de nous éloigner de Dieu ? Ou voulez-vous devenir quelqu'un qui réfléchit chaque jour à plusieurs reprises au salut, s'unit avec l'Église, vit une vie en suivant la parole de Dieu et en priant, et vit en recevant la grâce que Dieu donne ? En réalité, ceux qui ont reçu la rémission des péchés aiment réfléchir continuellement au salut. Ils aiment ruminer l'évangile de l'eau et de l'esprit chaque jour. N'est-ce pas vrai pour vous ? Il est bon de le méditer à plusieurs reprises. Ah, nous avons déjà reçu le salut, et nous en parlons encore. Seul le sujet est différent, et la façon de le dire est différente, mais c'est toujours la même histoire. Ah, c'est fatigant. Y a-t-il quelqu'un comme cela ? Si je parlais de moi-même ainsi tous les jours, ce serait fatigant. Mais que pouvons-nous y faire si la Bible nous dit de réfléchir chaque jour, de manière répétée, à notre salut ? L'Ancien et le Nouveau Testament parlent tous deux de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si quelqu'un qui prêche la parole de la Bible transmet autre chose que cela, c'est le mal devant Dieu. Toutes les paroles de la Bible parlent de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le salut, la vie, la foi, la vie spirituelle, le combat contre Satan le diable, le salut de l'âme, tous ces mots sont liés à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ciel, gloire, grâce, bénédiction, appel, évangile, si quelqu'un parle d'autre chose que cela, c'est précisément une hérésie et une secte. Cela peut y ressembler, mais ce qui n'est pas identique est une secte. Extérieurement, cela peut paraître semblable, mais si l'intérieur est différent, alors c'est une secte. N'est-ce pas merveilleux que l'Église de Dieu transmette véritablement la parole de Dieu chaque jour, et non les paroles trompeuses des sectes ? C'est une chose bénie de s'unir avec l'Église de Dieu, d'entendre et de croire la parole pure de Dieu. L'Église de Dieu prêche toujours l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, amenant les saints à penser chaque jour à la grâce de Dieu, à prier Dieu, à révérer Dieu, et à mener une vie qui ne suit pas le mal. Tout le monde, n'est-ce pas agréable d'entendre et de croire à nouveau la parole de vérité qui conduit à la rémission des péchés ? Oui, c'est agréable. Tout le monde, moi aussi, j'apprécie vraiment ce sentiment. Si j'étais forcé de prêcher autre chose que cet évangile de l'eau et de l'esprit, ce serait vraiment pénible. Si j'étais forcé d'enseigner non la parole du salut, mais d'autres choses centrées sur l'homme, je voudrais l'éviter. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à dire. Si nous parlions de choses humaines, il y aurait sûrement beaucoup à dire, mais pour nous qui sommes nés de nouveau, ce n'est qu'un levain inutile. Seul l'évangile de l'eau et de l'esprit, par lequel Jésus, qui est Dieu, nous a sauvés, est la parole précieuse de Dieu qui a encore un goût doux même si nous la méditons encore et encore. Il y a tant d'autres choses qui pourraient être dites, mais j'apprécie le plus parler de l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel nous avons été sauvés. C'est à ce moment-là que je suis le plus excité. Parce que c'est un temps pour réfléchir une fois de plus à de vieux souvenirs, pour méditer encore ce que le Seigneur a fait pour nous sauver, pour rendre grâce une fois de plus, et pour manger à nouveau la nourriture du salut, c'est pourquoi parler de ce salut est la chose la plus joyeuse pour moi. Je crois que vous aussi aimez le plus parler de cette parole du salut. Bien que vous puissiez dire avec vos bouches que c'est la même chose chaque jour, dans vos cœurs, vous pensez en réalité, eh bien, l'écouter à nouveau, c'est encore mieux. Au début, cela semblait un peu répétitif, mais à mesure que je continue à écouter, il n'y a vraiment aucune autre parole qui vaille autant la peine d'être entendue que celle-ci. Aujourd'hui, j'ai pensé que cela pourrait être un message un peu spécial, mais finalement, c'était encore ce même message. Pourtant, c'est bon. Je crois que c'est votre cœur. Tout le monde, les paroles que je vous transmets maintenant sont les paroles de Jésus. Un pasteur doit parler les paroles de Jésus. Prêcher la vérité de l'eau et de l'esprit à travers les paroles enregistrées sur ce que Jésus a fait, c'est exactement ce que l'Église de Dieu doit faire. Nous vivons maintenant la vie de foi à l'intérieur de l'Église. Nous entrons dans le sanctuaire, allumons la lampe à cette branche faite en martelant un talent d'or, mangeons du pain dans la maison d'or pur, prions à l'autel de l'encens, sortons pour prier dans le temple de Dieu, et vivons dans la maison d'or. C'est la vie de foi. Vous et moi vivons maintenant la vie de foi que Dieu nous a donnée. Recevoir la rémission des péchés et vivre la vie de foi, c'est vivre à l'intérieur de la maison d'or de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, 2 Épître aux Corinthiens chapitre 4 verset 16. Avec la foi qui croit au fil bleu, pourpré cramoisi et au fin lin retors révélé dans le tabernacle, nos âmes vivent à l'intérieur de la maison d'or brillante de Dieu. Nous rendons éternellement grâce à Dieu qui nous a sauvés de tout péché et jugement. Alléluia.